Bonjour à tous, je vais commencer pas très originalement, mais comme je vous ai pas vu depuis l'an 2011, je vais vous souhaiter une bonne année 2012 à tous. Bon, je sais bien qu'une année qui commence avec une semaine de concours blanc ne peut pas être foncièrement mauvaise. Comme ça, ce sera fait avant que je ne vous revoie après la moitié du mois de janvier. Bon, je vous avais promis, enfin j'avais laissé entendre que je ferais une petite vidéo pour commenter le cours que je vous laissais travailler pendant que je suis en pseudo-vacances pour une semaine. C'était un peu trop compliqué à faire, donc vous aurez le son, mais pas l'image. Je ne sais pas si on a gardé le plus intéressant, mais c'est comme ça, vous ferez avec. Bien, donc je suppose qu'au moment où vous m'écoutez, vous avez déjà tous lu, relu et re-relu une dizaine de fois le cours que je vous ai envoyé sur les limites et la continuité, qui ne comporte d'ailleurs que la moitié de cours sur les limites, donc si vous ne voyez pas parler de continuité dedans, c'est normal. Mais comme vous n'avez rien compris, je vais rajouter quelques petites explications à tout ça. Ben, je vous préviens, ce sera relativement limité niveau explication. Je vais pas tout réciter non plus puisque vous avez déjà le papier sous les yeux. Et puis je vous laisserai pas 3 minutes pour sortir vos affaires entre chaque phrase comme c'est le cas quand je vous ai en face de moi dans la salle. Bon. Donc pour la première partie sur les limites, je vais pas ajouter grand-chose. Les définitions, au moins les deux premières sont exactement les mêmes que pour les suites. On remplaçait juste des f, enfin des un par des f de x. C'est pareil. Comme vous avez tout compris aux suites, vous comprendrez tout là aussi, c'est bien. Il n'y a que la troisième qui est légèrement différente. Alors pourquoi elle est légèrement différente? Bah c'est simplement parce qu'on a, pour cette définition-là, un x qui va pas tendre vers plus l'infini, ce qui correspond au cas de n tend vers plus l'infini pour les suites, mais qui va tendre vers une limite finie. Donc si vous vous souvenez bien des définitions sur les suites, quand on a une suite un qui tend vers plus, pas vers plus l'infini, plutôt vers une limite finie, on va dire vers 2 en plus l'infini. Vous avez, bah, quel que soit epsilon strictement positif, il existe un entier n à partir duquel un moins l va être plus petit que epsilon. Donc on va regarder la fin, le valeur absolue de f de x moins f de 1 inférieur à epsilon que vous avez dans la définition 3, il correspond au un moins l inférieur à epsilon. Par contre, ce qui se trouve au début, bah, ce sera plus une condition du genre n supérieur à quelque chose, puisqu'on n'est pas du côté de plus l'infini, mais plutôt une condition du genre x va être suffisamment proche des réels a. En gros, la définition, elle dit que si x est suffisamment proche de a, f de x va être suffisamment proche de l. Il y a un bug dans la définition que j'ai sous les yeux, je le corrigerai avant de vous envoyer le papier. Bon, donc, la lettre grecque bizarre, là, qu'il y a juste après le quel que soit epsilon strictement positif, qui s'appelle un état strictement positif, bah, il représente un petit intervalle sur l'axe des abscisses dans lequel va se trouver votre variable x. Donc quand sur l'axe des abscisses vous prenez un petit intervalle autour de x, ben vous allez vous retrouver dans un petit intervalle autour de f de x sur l'axe des ordonnées. Alors pour faire des preuves de limite en utilisant cette définition-là, ben c'est comme pour les suites, c'est affreux. Donc vous avez un bel exemple en dessous. Le calcul est assez moche. Mais en gros, ce qu'il y a à comprendre de ce que je vous dis à la fin, il suffit alors de poser état égale epsilon sur 3 pour satisfaire la définition. Ben c'est que si vous voulez vous retrouver à une distance de la limite, donc la limite qui vaut 1 ici, hein. À une distance de la limite, par exemple, inférieure à, on va dire, 0,01, pourquoi pas, bah, il faudra que vous preniez des valeurs de x qui sont encore 3 fois plus près de 1, donc qui sont à 0,003 et des brouettes. Bien, il y a des questions? Non, c'est bien, on peut continuer. Alors, le paragraphe 2, ça ira encore plus vite. C'est exactement la même chose que pour les suites. Tous les tableaux que je vous ai donnés sur les produits de limite, quotients de limite, etc., etc., toutes les formes indéterminées, tout ça, c'est exactement la même chose. La seule différence qu'il peut y avoir, bah, c'est qu'on ne calcule plus des limites seulement en plus ou moins l'infini, mais aussi pour des valeurs finies. Donc, on va avoir des calculs qui seront un peu différents quand on calcule les limites vers, je sais pas, vers 1 par exemple, comme j'ai pu mettre dans l'exemple que j'ai mis dans la feuille. Bon, enfin tout ça, vous devez déjà savoir faire normalement. Sur négligeabilité et équivalence, même chose, c'est comme pour les suites, il n'y a rien de différent. Toutes les propriétés classiques sur les équivalences restent vraies. Tout ce qu'on n'avait pas le droit de faire avant reste vrai aussi, malheureusement. Et encore une fois, la seule différence, bah, c'est qu'on peut regarder des équivalents non seulement quand x tend vers plus l'infini, mais aussi quand x tend vers 0, vers 2, vers 12, vers tout ce que vous voulez. Donc il est là pour le coup indispensable de préciser vers quoi tend x, pardon, quand vous écrivez un équivalent avec des fonctions. Sinon, on comprend rien à ce que ça veut dire. Si vous m'écrivez que ln de 1 plus x est équivalent à x sans rien préciser de plus, bon, c'est faux. Si vous mettez que c'est le cas quand x tend vers plus l'infini, c'est encore plus faux. Si vous mettez que c'est le cas lorsque x tend vers 0, là, il n'y a pas de problème, c'est vrai, c'est l'équivalent classique. Ln de 1 plus truc est équivalent à truc qu'on a déjà vu sur les suites. C'est même intérêt que sur les suites, naturellement. Le but, c'est de simplifier les calculs de limites. Et c'est tout à fait le même genre de calcul que ce qu'on a pu faire sur les suites. Il n'y a rien de très nouveau. Bon, je vais m'étendre un petit peu plus sur ce que je raconte ensuite sur les asymptotes. Alors, asymptote, normalement, c'est une notion que vous avez déjà un petit peu étudiée au lycée, donc vous savez ce que ça signifie. En gros, une asymptote, c'est une droite dont va se rapprocher la courbe de votre fonction. Alors, il y en a plusieurs types. Asymptote verticale, horizontale, oblique. À tout ça, on va rajouter des choses un petit peu plus compliquées qui seront pas vraiment des asymptotes, c'est-à-dire que la courbe va pas vraiment se rapprocher de la droite, mais aura une direction qui se rapproche de celle de la droite. Bon, on va les commenter là-dessus après. Je vais mettre les asymptotes verticales à part, parce que c'est vrai que c'est assez différent de tout le reste. Les asymptotes verticales, bah, c'est simplement quand vous avez, en fait, en général, une valeur interdite, et donc une fonction qui va avoir une limite infinie, je sais pas, quand x tend vers 1, par exemple. Dans ce cas-là, vous direz que vous avez une asymptote verticale pour x égale 1. Alors, petite remarque, vous pouvez très bien avoir une limite infinie d'un côté, par exemple limite infinie quand x tend vers 1 moins, et une limite finie quand x tend vers 1 plus. Bon, c'est rare, mais ça arrive. Dans ce cas-là, on dira quand même qu'il y a une asymptote verticale. Dès que vous avez une limite à gauche ou à droite qui est infinie, vous avez une asymptote verticale. On a souvent des limites à gauche et à droite qui sont infinies toutes les deux, mais opposées. Regardez la fonction inverse, l'exemple bateau. En 0 moins, ça va tendre vers moins l'infini, en 0 plus, vers plus l'infini. Exemple évident d'asymptote verticale. Donc ça, c'est pas très dur à repérer, hein. De toute façon, si vous avez une fonction qui n'a pas de valeur interdite, ben, vous n'aurez jamais d'asymptote verticale. Quand il y a une valeur interdite, on va dire, dans la plupart des cas, vous aurez une asymptote verticale à cet endroit-là. Pour les asymptotes horizontales ou obliques, ça se passe du côté de l'infini, plus l'infini ou moins l'infini, donc on précise, hein, asymptote horizontale en plus l'infini ou en moins l'infini, si besoin est. Asymptote horizontale, ben, c'est juste quand votre fonction a une limite finie, en plus l'infini ou en moins l'infini, ça c'est pas compliqué. Asymptote oblique, bah c'est un petit peu plus compliqué parce que vous avez envie que votre fonction, enfin la courbe de votre fonction se rapproche d'une droite, donc équation de droite y égale à x plus b. Autrement dit, si vous préférez, vous avez envie que l'écart entre la courbe et la droite tende vers 0. Ça revient à ça, dire que la courbe se rapproche de la droite. Bon, donc la définition, elle découle de ça. Elle dit simplement que la limite de l'écart entre les deux, f de x moins ax plus b, va être égale à 0, alors soit en plus l'infini, soit en moins l'infini. Alors évidemment, ça pose, la définition pose pas de problème, mais ça pose des problèmes pour déterminer à partir de l'équation, on va dire, d'une fonction, si on a une asymptote oblique ou non, parce qu'on connaît pas a priori les valeurs de a et b pour lesquelles, bah, il va falloir calculer la limite de f de x moins ax plus b. On va voir un petit peu plus loin une méthode générale pour déterminer les valeurs de a et b sans, de façon systématique, sans avoir à les deviner. Mais si jamais, c'est ce que je précise dans la deuxième partie de la définition, si jamais vous arrivez par hasard à mettre une fonction f de x sous la forme ax plus b plus un morceau qui tend vers 0, dans ce cas-là, pas besoin d'en faire plus, vous pouvez directement dire que bah, la droite d'équation y égale à x plus b sera asymptote oblique à la courbe, puisque en fait vous avez quelque chose qui satisfait à la définition, vous soustrayez ax plus b à votre équation, il vous reste quelque chose qui tend vers 0. Donc je sais pas, vous avez une équation f de x que vous mettez sous la forme 2x plus 3 plus 1 sur x, ça aura pour asymptote oblique 2x plus 3, sans problème, hein, en plus l'infini et en moins l'infini en l'occurrence, puisque le dernier morceau, 1 sur x, tend vers 0 des deux côtés. Bon, passons au paragraphe 5. Alors c'est là qu'on fait intervenir des notions que pour le coup vous n'avez jamais dû voir, ce qu'on appelle des branches paraboliques. Alors quel est le principe? Pourquoi ça s'appelle comme ça déjà? Parce que tout simplement, ça revient à dire que la courbe de votre fonction, alors c'est comme les asymptotes, c'est en plus l'infini ou en moins l'infini, donc la courbe de votre fonction va ressembler en quelque sorte à une parabole. Donc une parabole, vous pensez tout de suite x au carré, quelque chose qui monte relativement vite, on va dire, quand x tend vers plus l'infini. En fait, ça peut être une parabole dans ce sens-là. Dans ce cas-là, c'est quelque chose qui va avoir une, on va dire, une direction qui va devenir de plus en plus verticale quand on se rapproche de plus l'infini. Ça peut être aussi dans l'autre sens. Donc la fonction symétrique de x au carré, c'est sa réciproque, c'est racine de x, où vous avez quelque chose qui est aussi parabolique, hein, la forme est la même, mais cette fois-ci qui tend à devenir de plus en plus horizontale et qui croît, on va dire, moins vite vers plus l'infini. si vous vous souvenez de vos résultats de croissance comparés, en gros, x au carré, ça se trouve relativement haut dans l'échelle, en tout cas, ça se trouve plus haut qu'une droite, puisqu'on parlait de droite quand on parlait d'asymptote, racine de x, ça se trouve plus bas. Donc le but des branches paraboliques, c'est de distinguer les fonctions qui vont tendre vite vers plus l'infini, celles qui vont tendre lentement vers plus l'infini, et, c'est ça le cas le plus compliqué en fait, les fonctions qui vont tendre à peu près aussi vite vers plus l'infini qu'une droite, donc qui ressemblent à des fonctions qui vont avoir une asymptote oblique, mais qui n'ont pas d'asymptote oblique. Ça arrive. Donc le premier cas, définition 10, ça correspond aux fonctions qui tendent pas vite vers plus l'infini. C'est-à-dire qui ont une limite qui vaut plus l'infini, ou moins l'infini, ce sera pareil avec des limites négatives, mais qui, quand vous les divisez par x, tendent vers 0. Autrement dit, en termes de négligeabilité, vous pouvez dire que f de x est un petit taux de x quand x tend vers plus l'infini, qu'elle va se retrouver en dessous, dans notre échelle de croissance, de la droite y égale x, et donc de toutes les autres droites, puisqu'elles ont toutes des croissances semblables, les droites. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une branche parabolique de direction OX. Alors ça veut dire quoi de direction OX ? OX, c'est l'axe des abscisses, c'est l'axe horizontal. Donc ça veut dire que la direction de la courbe va se rapprocher de l'horizontale quand on tend vers plus l'infini. Donc je vous donne des exemples, les exemples bateaux. Racine de x, c'est ça qui donne le nom de branche parabolique, en fait. Ln de x aussi, c'est la même chose. C'est quelque chose qui tend lentement vers plus l'infini, qui a une direction de plus en plus horizontale. Ensuite, définition 11, branche parabolique de direction OY. Donc cette fois-ci, des courbes qui vont tendre plutôt vers la verticale quand x tend vers plus l'infini. Ça, c'est les fonctions qui croisent vite vers plus l'infini. Ça se mesure comment? Même méthode, la limite de f de x est plus l'infini, mais la limite de f de x sur x, si on compare à x, cette fois-ci, on aura quelque chose de beaucoup plus gros. Donc, la limite de f de x sur x est, elle aussi, infinie. Exemple bateau, x au carré, donc la parabole de base, mais aussi e puissance x, qui est quelque chose qui croît, comme vous le savez, vite, quand x tend vers plus l'infini. Et enfin, dernier cas, alors celui-là est beaucoup plus tordu, le cas d'une branche parabolique qui va avoir une direction qui n'est ni verticale ni horizontale, mais qui va être oblique, sans avoir d'asymptote oblique. Alors, c'est ce qu'on appelle une branche parabolique de direction la droite d'équation y égale à x. Donc y égale à x, c'est une droite qui a une pente a, et qui passe par l'origine, peu importe qu'elle passe par l'origine, ça c'est pas essentiel. Et donc ça arrive, ce cas-là, dans le cas où f a pour limite plus l'infini, toujours en plus l'infini, f de x sur x, alors cette fois-ci, n'a pour limite ni 0, ce qui était le cas de la branche parabolique de direction x, ni l'infini comme pour y, mais quelque chose qui se situe entre les deux, a étant la pente de cette fameuse droite qui va servir de repère pour la direction de notre courbe, et pour laquelle f de x moins ax a une limite infinie. Alors cette dernière condition, elle sert à distinguer du cas où on a une asymptote oblique, où on aurait la limite de f de x moins ax qui serait finie, qui serait égale en fait à l'ordonnée à l'origine b de l'asymptote oblique. Donc quand vous calculez la limite de f de x moins ax, si vous avez une limite finie, vous aurez une asymptote oblique, mais si vous avez une limite infinie, vous allez vous retrouver dans un cas où en fait vous avez une courbe dont la direction se rapproche de celle d'une asymptote oblique, mais qui s'éloigne quand même de plus en plus de la droite y égale à x. Pas forcément évident à voir, tracez sur votre calculatrice la fonction que je vous donne en exemple, x plus ln de x, vous verrez que la direction se rapproche de celle de la droite y égale x, mais la courbe elle-même s'en éloigne de plus en plus. Bon, en pratique, comment on fait pour distinguer tous ces cas et surtout pour calculer, comme je vous l'ai dit un petit peu plus haut, on ne sait pas le faire de façon évidente a priori, les coefficients a et b, par exemple, quand on a une asymptote oblique. On fait en fait simplement plusieurs calculs de limite dans un certain ordre, et à chaque fois qu'on fait un nouveau calcul de limite, on regarde si on a assez d'informations pour savoir ce qui se passe, et sinon, on continue à faire un calcul de limite de plus pour distinguer tous les différents cas qu'on a pu voir dans les exemples que je vous ai donnés juste avant. Donc c'est ce qu'on appelle le plan d'étude des branches infinies, en haut de la page 4 du cours. Première limite que vous allez calculer, c'est simplement la limite de f en plus l'infini. Si jamais vous avez une limite finie, vous savez qu'il y a une asymptote horizontale, c'est pas la peine d'aller plus loin, vous avez fini votre boulot. Sinon, si vous avez une limite infinie, ce qui correspond à tous les autres cas qu'on a vus, on ne sait pas encore distinguer entre tous ces cas, on continue. Continuer, ça veut dire quoi? Ça veut dire calculer la limite de f de x sur x. F de x sur x a pour limite 0, vous êtes exactement dans le cas d'une branche parabolique de direction OX. Vous avez quelque chose qui croît lentement. Vous vous arrêtez, vous êtes content, on va pas plus loin. Si vous avez une limite infinie. Cette fois-ci, ça correspond à une branche parabolique de direction OY. Vous vous arrêtez aussi, puisque vous savez ce qu'il y a, c'est pas la peine d'aller plus loin. Par contre, si vous avez une limite finie pour f de x sur x, ça peut correspondre à une asymptote oblique, ça peut correspondre aussi à une branche parabolique de direction une droite oblique. Le dernier cas qu'on a vu juste avant. Donc là, on est obligé de continuer. Alors, la limite finie que vous avez obtenue pour f de x sur x, qu'on va appeler a, c'est le coefficient directeur potentiel de votre asymptote oblique. Bon, mais pour savoir s'il y a une asymptote oblique, ben, il faut calculer, en fait, la limite qui intervenait dans la dernière définition que je vous ai donnée, celle des branches paraboliques obliques, la limite de f de x moins ax. Soit vous trouvez quelque chose de fini, que vous appelez b, et dans ce cas-là, ben, vous avez exactement ce qu'il faut pour avoir une asymptote oblique d'équation y égale ax plus b. Donc vous avez déterminé vos a et vos b, en fait, par deux calculs de limite. A, c'est la limite de f de x sur x, et une fois que vous avez ce a, ben vous calculez la limite de f de x moins ax, et vous obtenez le b. Et si vous n'obtenez pas de b, si vous obtenez une limite infinie pour f de x moins ax, alors que vous aviez une limite finie pour f de x sur x, ben c'est ce fameux dernier cas un peu pénible, branche parabolique de direction y égale ax. Donc on fait toujours les calculs systématiquement dans cet ordre-là, limite de f, si c'est fini, on arrête, si c'est infini, on continue. Limite de f de x sur x, si on obtient 0 ou l'infini, on est content. Si on obtient quelque chose de fini, on l'appelle a, on calcule la limite de f de x moins ax, et on regarde si on obtient une limite finie ou non. Si jamais il y a une étape à laquelle on n'obtient pas de limite du tout, ben, on s'arrête aussi, parce qu'on ne sait pas dire grand-chose de plus intéressant. Donc je finis cette partie du cours par deux exemples d'études de branches infinies. Alors le premier, la fonction fait peur, parce qu'il y a des x4 au numérateur, des x3 au dénominateur. En fait, c'est pas très dur à étudier ce genre de fonction. Ce qui est le plus dur, c'est ce que je fais dans la première partie, c'est-à-dire domaine de définition asymptote verticale, parce qu'il faut résoudre l'équation du troisième degré qui est en bas. Bon, normalement, vous savez faire tout ça, donc je vais pas m'étendre dessus. Je vais plutôt détailler avec vous donc ce qui se passe pour l'étude, justement, de ce qui se passe en plus l'infini, savoir si on a une asymptote, une branche parabolique, donc ce qu'on a comme type de courbe, on va dire, en plus l'infini. Première chose, la limite de f. Bon, vous avez un quotient de polynôme, vous savez faire à coup d'équivalent, 2x4 sur x3, 2x, ça tend vers plus l'infini. On n'est pas dans le cas d'une asymptote horizontale, on continue. Pour f de x sur x, quand vous avez un équivalent de f de x, il suffit de le diviser par x pour obtenir l'équivalent de f de x sur x, donc il n'y a même pas vraiment besoin de faire de calcul limite supplémentaire. Ici, vous obtenez une limite qui vaut 2, on a une valeur de a, hein, potentiel coefficient directeur de l'asymptote oblique, qui vaut 2, donc on continue, on calcule f de x moins 2x, donc calculer f de x moins 2x, ici c'est un calcul barbare de mise au même dénominateur, et on calcule la limite, s'il y en a une, de ce machin-là. On obtient une limite finie, moins 1, on est dans le cas où on a une asymptote oblique d'équation y égale 2x moins 1, puisqu'on a obtenu successivement a égale 2, b égale moins 1. C'est valable en plus l'infini et en moins l'infini, et ça permet d'affiner, évidemment, le tracé de la courbe, donc toutes les asymptotes qu'on a obtenues lors de l'étude de la fonction, hein, on les trace avant de tracer la courbe sur notre graphique. Bon, d'habitude, je les trace en pointillés sur mes graphiques. Faites comme vous voulez, il faut bien distinguer les asymptotes de la courbe quand même. Puis, on trace la courbe en s'appuyant sur ces asymptotes, en sachant que la courbe va se rapprocher de ces asymptotes. Le deuxième exemple que j'ai donné, bon, c'était pour donner quelque chose d'un peu plus exotique. C'est pas vraiment beaucoup plus compliqué, hein. Je vais juste détailler un petit peu le calcul en plus l'infini. En plus l'infini, pareil, hein, on fonctionne à coup d'équivalent. F de x est équivalent à e puissance x sur x au carré. Ça tend vers plus l'infini, c'est de la croissance comparée. F de x sur x, vous divisez par x e puissance x sur x au cube, ça tend toujours vers plus l'infini. Pas besoin d'aller plus loin. Vous avez une branche parabolique de direction y. Autrement dit, vous avez quelque chose qui va croître vite en plus l'infini. En moins l'infini, ça va encore beaucoup plus vite, puisque vous avez tout simplement une limite qui est égale à 0. Donc là, on s'arrête tout de suite, on a une asymptote horizontale. Alors pour la courbe, évidemment, bon, on ne peut pas faire l'étude de variation, parce que calculer la dérivée de ce machin-là, ce serait affreux. Je l'ai faite avec l'ordinateur. On se contentera d'admettre que ça ressemble effectivement à ça. Bon, puis j'ai rajouté un petit paragraphe 6, avec des propriétés supplémentaires sur les inégalités et les limites. C'est exactement la même chose que pour les suites, hein, il y a notamment le théorème des gendarmes qui fonctionne pareil. Si vous avez une fonction encadrée entre deux autres qui ont la même limite, la fonction du milieu aura la même limite également. Tout ça, bon, vous pouvez le faire en plus l'infini, mais vous pouvez le faire ailleurs si les inégalités restent vraies partout. Et je vous ai donné un exemple de calcul de limite de fonction faisant intervenir des parties entières utilisant le théorème des gendarmes. Je crois que j'avais donné à peu près la même chose pour les suites, donc c'est pas quelque chose de très nouveau. Voilà. Ce qu'il faut retenir et travailler, hein, c'est surtout cette histoire de plan d'étude des branches infinies, comprendre pourquoi on calcule les limites dans ce sens-là, à quoi correspondent les différentes limites, et être capable de faire ces calculs-là sur des fonctions, on va dire, classiques, à coût d'équivalent, à coût de croissance comparée, bref, toutes les choses qu'on utilise en permanence depuis le début de l'année, depuis qu'on calcule les limites de fonctions. Bien, la deuxième partie du cours, qui sera un peu plus courte, hein, on la fera ensemble dans une petite dizaine de jours quand je serai revenu. Voilà, bon travail et à bientôt.